Comme le père François de Sales vous l'a expliqué, je suis professeur d'histoire et c'est probablement pour cette raison que chaque année je viens participer avec plaisir à ce SFA. Le père François de Sales pense que les professeurs n'ont pas beaucoup de travail et beaucoup de vacances, donc chaque année j'ai un sujet différent, ce qui nécessite une préparation. Et cette année, qu'est-ce qui est sorti du chapeau? C'est le sujet djihad et croisade. Alors, en préambule, je tiens à dire que je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Même si j'ai fait beaucoup d'histoire médiévale, je connais un peu mieux la question des croisades. Mais je ne prétends pas parler en tant que spécialiste de la question, donc je vous demande d'être indulgent. Alors, djihad et croisade, effectivement, c'est un sujet d'actualité, plus le djihad que la croisade, vous l'aurez compris, puisqu'aujourd'hui, très souvent, les adversaires de l'Église sortent du placard ce vieil épouvantail, qui est la croisade, pour accuser l'Église et le christianisme en général d'être violent et, par le passé, d'avoir commis de nombreux crimes au même titre que l'islamisme aujourd'hui. Alors, c'est vrai que cette attaque est d'actualité. En 2017, donc il y a à peu près un an et demi, vous avez un historien médiéviste qui s'appelle Philippe Buc, B-U-C, qui a publié un ouvrage dont on a beaucoup parlé dans le monde des historiens, qui s'appelle « Guerre sainte, martyrs et terreur ». Et dans cet ouvrage, cet historien s'attache effectivement à alimenter cette thèse et à dire, je résume sa thèse, que les formes de la violence en Occident sont liées au christianisme. Et il fait même un parallèle avec les guerres en Irak, menées par les États-Unis ces dernières années. Il va même jusqu'à expliquer que la Révolution française et la terreur sont un héritage du christianisme, ainsi que la Révolution bolchévique en Russie. Donc pour lui, le christianisme est intrinsèquement violent parce que le christianisme est un monothéisme. Qui dit monothéisme dit Dieu unique. Donc, un Dieu unique, une vérité, et à partir de là, du moment où on pose l'existence d'un Dieu unique et d'une vérité, on crée, par conséquent, une exclusion de tous ceux qui n'adhéreraient pas à la croyance en le Dieu unique et en la croyance à cette vérité. Donc, voilà un peu la thèse formulée par Philippe Buc. Autre élément qui permet de justifier ce topo, aujourd'hui, c'est une vieille croyance qui remonte au XIXe siècle et qu'on peut trouver chez les héritiers d'Auguste Comte. Vous avez entendu parler d'Auguste Comte, le positivisme. Auguste Comte pensait que l'histoire de l'humanité se résumait en plusieurs âges, trois grands âges, l'âge théologique, l'âge métaphysique et l'âge scientifique. Donc l'âge, ce que Auguste Comte appelle l'âge théologique, c'est en gros le Moyen-Âge, et c'est la religion qui, en gros, est la source du pouvoir, la source de l'autorité. Au XVIIIe siècle, avec la Révolution française, entre autres, la religion est abandonnée au profit de la philosophie, d'où le nom d'âge métaphysique, et ce sont les philosophes. Pensez au siècle des Lumières, ce sont les philosophes qui, en gros, sont les phares qui éclairent l'humanité, et la source du pouvoir, la source de la légitimité, vient de la philosophie. Et Auguste Comte, qui est un positiviste, pense au XIXe siècle, que c'est la science qui doit désormais remplacer la religion, remplacer la philosophie, pour devenir la nouvelle source sur laquelle va se bâtir une humanité nouvelle. Et c'est ce qu'on va appeler le scientisme ou positivisme. Dans ces trois âges décrits par Auguste Comte, l'âge théologique, c'est un peu une sorte d'âge enfantin. L'humanité a encore des superstitions, à savoir la religion. Et la violence dans le monde musulman s'expliquerait parce que les musulmans, les pays d'islam, sont encore dans cet âge qui, pour nous, correspondait au Moyen-Âge, un âge où la religion l'emporte. Et si l'islam était éclairé, si l'islam adopter le logiciel des Lumières et le logiciel des sciences, eh bien, l'islam deviendrait inoffensif au même titre que le christianisme. Donc vous voyez bien que derrière cette vision se dégage une certaine forme de relativisme, puisque, comme l'a dit le père François de Sales au début, les violences dans l'islam, en fait, pourraient être mises au même niveau que les violences qui ont éclaté dans le monde chrétien à l'époque des croisades. Autrement dit, ce qui est dangereux, ce sont les intégrismes au sein des religions, mais les religions elles-mêmes sont toutes au même niveau. Donc ce faux parallèle ne tient aucun compte de la vérité historique, de la différence entre la personnalité que fut le Christ et celle que fut Mahomet. Cette conception est dirigée contre le christianisme, pour le dénigrer, pour le désarmer intellectuellement, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans ce topo. Je crois que j'ai à peu près 45 minutes, donc je vais aller... aller droit à l'essentiel. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des récits chronologiques, parce que c'est l'heure de la digestion. J'en vois déjà qui commence à se gratter les yeux. Je voudrais surtout nourrir votre réflexion, parce que le but d'un cadre du chapitre Sainte-Madeleine, ce n'est pas de tout savoir sur tout, vous ne pouvez pas, mais c'est de vous intéresser, de nourrir votre réflexion, parce que la formation, elle est menée tout au long de notre vie. Vous ne devez pas vous dire que c'est entre 15 ans et 18 ans qu'on apprend des choses et qu'à partir de 18 ans, en gros, du moment où vous avez votre bac ou du moment où vous avez terminé vos études, vous n'avez plus besoin de vous former, vous savez tout sur tout. Ce n'est pas la bonne approche. On se forme tout au long de sa vie, aussi bien à 15 ans qu'à 15 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans. Et même les retraités ont encore du temps pour se former. Et certains le font, et c'est tant mieux. Donc, se poser la question de la violence... Se poser la question de la croisade et du djihad, c'est bien évidemment se poser la question de la violence, c'est aussi se poser la question des relations entre l'Église et l'État. Autrement dit, entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Ce qu'on appelait autrefois le temporel et le spirituel. Parce que la violence peut effectivement être le fruit des actes d'un individu, mais la violence dont on va parler ici, c'est la violence politique, c'est-à-dire la violence mise en œuvre par l'État. Autrement dit, la guerre. Or, la guerre, vous le savez, c'est un pouvoir éminemment régalien, c'est-à-dire un pouvoir qui relève du champ de compétence de l'État et pas de l'individu. Ce n'est pas l'individu qui, du jour au lendemain, décide qu'il va rentrer en guerre. C'est le fait du prince, c'est le fait de l'État. Donc, se poser la question du djihad et des croisades, c'est aussi s'interroger sur la nature des relations qu'exercent l'Église et l'État en pays d'islam et dans la société chrétienne. Voilà pourquoi j'aborderai ces sujets-là. Donc, je vais suivre un plan en deux parties. Dans une première partie, le grand 1, qui sera la partie la plus longue, je vais revenir sur la place respective de la violence et de la guerre dans le monde chrétien et dans l'islam. Donc il y aura deux sous-parties, la violence et la guerre dans le christianisme, la violence et la guerre dans l'islam. Ce sera la première partie. Et dans la seconde partie, eh bien, je reviendrai sur le cas plus précis des croisades, avec un petit rappel historique, entre autres. Pour le plan, ça va ? Il y en a qui sont déjà perdus ou pas ? Vous êtes plutôt un public de lycéens, d'étudiants, de jeunes professionnels. Qui a déjà son bac? Ok, qui ne l'a pas? Alors ceux qui ne l'ont pas, c'est parce que vous n'avez pas encore l'âge ou c'est que vous ne l'avez pas eu? Ouais, d'accord, c'est ce qu'on dit, ok. Alors, première sous-partie, la place respective de la violence et de la guerre dans le christianisme. Alors, petit rappel historique, le christianisme, ce n'est pas ce qu'on appelle une religion hors sol, c'est-à-dire une religion qui est sortie de terre comme ça, sans raison, ou plutôt qui est sortie de nulle part. Le christianisme, il va naître au Moyen-Orient, dans un contexte bien précis, qui est celui de la culture politique de l'Empire romain et de la culture religieuse du judaïsme. Le christianisme, autrement dit, est l'enfant direct du judaïsme. Le christianisme hérite par conséquent d'une partie considérable de la tradition écrite contenue dans l'Ancien Testament. Je ne vous apprends rien en disant que Jésus était juif. Voilà, c'est un qui n'était pas au courant. Nous partageons avec le judaïsme ce qu'on appelle les livres de l'Ancien Testament, en tout cas la plus grande partie, notamment ce qu'on appelle le Pentateuque, que les juifs appellent la Torah, le Pentateuque, qui sont les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. À la différence du Nouveau Testament, qui est quasiment biographique, puisqu'il rapporte la vie et l'enseignement du Christ, l'Ancien Testament, lui, est beaucoup plus guerrier. Alors, vous avez déjà certainement lu, peut-être pas tout, mais une partie de l'Ancien Testament, et effectivement, vous avez un contraste considérable dans le rapport à la guerre et à la violence. Si je prends un exemple, ça vous pouvez le noter, c'est le livre de Josué. Le livre de Josué fait partie du canon des textes judaïques. C'est le livre, c'est ce qu'on appelle le premier des livres historiques, qui suit juste le Pentateuque. Et dans ce livre de Josué, eh bien, on trouve dépeint en détail de très nombreux massacres commis par les Juifs, par le peuple juif, contre les peuples ennemis. Et ces massacres sont commis en application d'un principe qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Tu anéantiras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, te livre. Donc tous les massacres qui sont commis dans l'Ancien Testament, qui sont commis par les Juifs contre leurs ennemis, sont commis avec la bénédiction de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui, j'allais dire, les demande. Exemple, alors, parmi tant d'autres, hein, massacre des Ammonites, massacre des Édomites, des Philistins, des Araméens, Amalécites, pardon, massacre, par exemple, massacre des habitants de Sichem par les fils de Jacob. Autre exemple connu que vous connaissez peut-être mieux, c'est celui de Josué, rasant la ville de Jéricho, hein, l'histoire des trompettes, etc. Ça vous dit peut-être quelque chose. Référence à la loi du talion. Bref, les exemples de guerre et de violence sont innombrables dans l'Ancien Testament. Et c'est par exemple un des arguments utilisés par l'historien dont je vous parlais en préambule, Philippe Buck, pour démontrer la violence intrinsèque au christianisme. Ce qu'il oublie de dire, c'est que cette violence-là n'a pas été inventée par le christianisme, elle est le fruit de l'héritage du judaïsme dont le christianisme descend. Donc on ne peut pas nier cette violence et ces nombreuses guerres voulues par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais de la même manière qu'on ne peut pas ignorer cette violence, eh bien on ne peut pas non plus ignorer que c'est justement en opposition, et là mon propos est important, on ne peut pas ignorer que c'est en opposition à cette violence de l'Ancien Testament que va se fonder profondément le christianisme naissant. Ainsi, et je pourrais vous citer plusieurs passages des Écritures, ainsi le Christ s'élève à plusieurs reprises contre la religion de ses pères, c'est-à-dire contre l'héritage du judaïsme. Exemple, citation du Christ que vous connaissez, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. » Donc le Nouveau Testament chrétien est en quelque sorte l'anti-Ancien Testament juif. J'espère que vous me comprenez. Je vous cite d'autres exemples. Par exemple, dans les Béatitudes, hein, Mais moi, je vous dis, donc là, c'est le Christ qui parle à travers saint Matthieu, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, ou encore, saint Jean, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, de la même manière que la violence et la guerre sont bien réelles dans l'Ancien Testament, eh bien, le message du Christ prend radicalement le contre-pied de cet héritage. On peut dire que dans l'Ancien Testament, Israël est une théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui dirige son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Autrement dit, si Dieu ordonne la guerre, si Dieu veut la guerre, eh bien le peuple obéit. Le Christ, lui, eh bien, nous offre, à contrario, un discours à la fois pacifiste et universaliste, universaliste parce qu'il ne s'adresse plus à un peuple en particulier. Jésus abolit cette notion et, vous connaissez les évangiles tout comme moi, à aucun moment dans les évangiles, on ne voit Jésus tuer quelqu'un, lapider quelqu'un ou inciter à le faire. Alors pourquoi? Plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le message du christianisme n'ambitionne pas de construire une cité terrestre. Je répète cette phrase. Le message chrétien, le christianisme, n'ambitionne pas de construire avant tout une cité terrestre, c'est-à-dire une cité qui confondrait le temporel et le spirituel, autrement dit le politique et le sacré, contrairement à l'islam ou contrairement à ce qu'était le judaïsme à l'époque de l'Ancien Testament. Le but du christianisme est de mener les âmes au ciel et de les préparer à une éternité bienheureuse. Le Christ le dit dans saint Jean, par exemple, « Mon royaume n'est pas de ce monde », ça tombe bien que nous soyons dans la Semaine Sainte, puisque c'est l'actualité, vous avez entendu lors du récit des rameaux, le récit de la Passion, « Mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes gens combattraient pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. » Autre élément qui montre bien que le christianisme n'ambitionne pas de créer une cité terrestre, là aussi, saint Jean, Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Donc le Christ ne cherche pas à mettre en œuvre une royauté et un pouvoir politique temporel. Le Christ va refuser à de nombreuses reprises les tentations des apôtres qui proposaient en son nom de créer un soulèvement armé en Judée, par exemple, contre l'occupation romaine. Vous savez que la Palestine, à cette époque, est partie intégrante de l'Empire romain et qu'une partie importante des Juifs, notamment les Zélotes, eh bien, voulaient prendre les armes à la main pour repousser l'occupation romaine. Vous savez ce que répond Jésus aux pharisiens lorsque les pharisiens, avec la volonté de tromper le Christ, lui demandent ce qui est juste entre à qui faut-il payer l'impôt ? Faut-il payer l'impôt à César ou ne pas payer l'impôt à César ? Vous savez ce que répond Jésus ? Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il fonde la séparation traditionnelle entre le temporel et le spirituel. Jésus répond : rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il est légitime de payer l'impôt aux Romains. Donc Jésus ne remet pas en cause l'occupation romaine de la Palestine. D'ailleurs, lorsque les Romains vont écraser les Juifs qui se révoltent en 70, alors je ne sais pas si vous avez les notions historiques, 70, révolte juive en Palestine, et les Romains, avec le général Titus, rasent le temple, et c'est ce qui va entraîner ce qu'on a appelé la diaspora, c'est-à-dire la dispersion des Juifs un peu partout dans le bassin méditerranéen. Eh bien, lorsque les Juifs se révoltent contre l'occupant romain, les chrétiens, qui étaient juifs de par leur appartenance à la nation et au peuple juif, eh bien les chrétiens ne participent pas à cette révolte. Donc on voit bien que dès le 1er siècle, il y a une distinction entre les juifs devenus chrétiens et les juifs qui n'ont pas suivi le Christ. Donc voilà pour ce petit rappel sur les grandes différences entre violence et guerre dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En conséquence, dans les premiers siècles du christianisme, la violence et la guerre sont complètement refusées et ou même absentes du discours des chrétiens. Parce que les premiers chrétiens reprennent exactement ce message du Christ dont je vous ai parlé, aimez-vous les uns les autres, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre, etc. Si on prend les enseignements des premiers pères de l'Église et des grands penseurs chrétiens des premiers siècles, eh bien, le rejet de la guerre et de la violence est catégorique. Lactance, qui était surnommé le Cicéron chrétien au IIIe siècle, rejette toute idée de guerre parce que la guerre tue. Clément d'Alexandrie, qui est un père de l'Église, il me semble, voit, et là je cite ces mots, voit dans la guerre une machination démoniaque. Et d'autres grands penseurs, comme Tatien ou Tertullien, au IIe siècle, rejettent catégoriquement tout usage de la violence. Les choses vont évoluer à partir du IVe siècle. Parce que, vous le savez, au IVe siècle, qu'est-ce qui se passe dans l'Empire romain? Voilà. Le christianisme voit la fin des persécutions, puisqu'en 313, ce qu'on a appelé l'édit de Milan, ou édit de Constantin, eh bien, le christianisme devient autorisé. L'empereur romain de l'époque, alors j'entends en détail parce que l'Empire romain était déjà divisé en deux empires, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais retenez qu'à partir de 313, le christianisme devient une religion parmi d'autres au sein de l'Empire romain. L'empereur Constantin lui-même s'est rapproché du christianisme, il se convertit, alors que les chrétiens sont très peu nombreux à ce moment-là dans l'Empire romain, ils sont peut-être seulement 5% de la population totale de l'Empire. Ils sont un peu plus nombreux dans certaines régions, comme à Rome, par exemple, mais ils forment une minorité dans l'Empire romain. Donc le christianisme n'est plus persécuté et de plus en plus de chrétiens entrent au service de l'État. Et l'un des plus connus, l'un des exemples les plus connus, c'est bien évidemment Saint Martin, en Gaule, qui était soldat. Il était soldat, donc il exerçait le métier des arts. Oui.
Il a abandonné, justement.
Alors, il a abandonné, il n'a pas abandonné tout de suite. Parce que ça pouvait pas. Enfin, voilà, quand vous vous engagez, vous avez un certain temps, une certaine durée de service. La tradition dit qu'il n'a jamais versé le sang. Mais le fait d'avoir un soldat, c'est déjà un signe que le rejet catégorique de la violence tel qu'on le trouve dans les paroles du Christ aux origines a évolué. Donc pour les chrétiens qui sont de plus en plus nombreux et qui occupent une place croissante dans l'Empire romain, il y a une question qui se pose tout naturellement, ça va être la question de la légitimité de la guerre. Et donc, de grands intellectuels, de grands docteurs de l'Église vont se pencher sur la question, et le premier d'entre eux, c'est probablement Saint Augustin. Saint Augustin, va jouer un rôle considérable parce qu'il va poser les fondements de ce qui deviendra pour l'Église la notion de guerre juste. La notion de guerre juste, puisque l'Empire romain accordant de plus en plus de place aux chrétiens, les chrétiens jouent un rôle politique. D'ailleurs, le christianisme deviendra quelques années plus tard, en 380 sous Théodose, la religion officielle de l'Empire. Donc on ne peut pas ne pas se poser la question du rapport entre le christianisme devenue religion officielle, et la guerre, qui est encore une fois un pouvoir régalien par excellence. Donc saint Augustin va définir la guerre juste comme la guerre suivante, comme étant la guerre suivante, et juste, une guerre entreprise tout d'abord sans haine, ni intérêt personnel. Donc une guerre est juste si elle est entreprise sans haine, ni intérêt personnel, mais seulement pour protéger le peuple et les victimes des méchants, protéger le peuple et les victimes des méchants et châtier ceux-ci pour reprendre des terres spoliées par ces mêmes méchants. Donc on n'est plus du tout dans une notion de guerre telle qu'on l'a retrouvée dans le judaïsme sous l'Ancien Testament. C'est plus Dieu qui décide d'anéantir tel peuple ennemi parce qu'il le veut bien. La guerre obéit à des règles. Et elle est justifiée parce que même si le fait de combattre n'est jamais désirable, il est nécessaire pour toute société, y compris chrétienne, d'être défendu. Il faut par exemple défendre l'Empire romain contre les barbares qui sont de plus en plus nombreux à envahir l'Empire au IVe et au Ve siècle. Il faut défendre les campagnes contre les brigands dans la période troublée de l'effondrement de l'Empire romain. Je répondrai à vos questions quand j'aurai terminé, ce sera comme ça tout le monde pourra en poser. Donc, à partir du IVe siècle, on a une évolution, ou plutôt une définition du rapport, une définition et une justification de la guerre dans un contexte qui est celui de l'arrivée des chrétiens au pouvoir. Puisque jusqu'à présent, les chrétiens étaient une minorité, les chrétiens étaient persécutés, donc ils n'étaient même pas en mesure de mener une guerre contre quiconque. Cette notion de guerre juste sera reprise détaillée plus tard, au cours des siècles, notamment par saint Thomas d'Aquin, lui aussi docteur de l'Église. Saint Thomas d'Aquin rappelle que, puisque tous les hommes sont dotés d'une âme, ils sont tous enfants de Dieu, et donc, par conséquent, toute guerre de conquête est une guerre injuste parce que c'est une guerre fratricide entre enfants de Dieu. Toute guerre de conquête, d'expansion, est une guerre injuste et fratricide. Elle doit être réprouvée, car Dieu refusera toujours que ses enfants s'entretuent en son nom. Donc, c'est très clairement posé par les intellectuels, par les penseurs chrétiens. Alors venons-en maintenant au cœur du sujet, les croisades, la notion de guerre sainte. À plusieurs reprises au cours de son histoire, des exemples de princes ou de rois chrétiens vont vouloir utiliser la force, autrement dit la guerre, pour, par exemple, convertir des peuples considérés comme des menaces, et je pense en particulier à l'exemple de Charlemagne, qui va mener une sorte de guerre sainte contre les Saxons, un peuple païen en marge de son empire. Et bien, lorsque Charlemagne va mener des raids pour convertir de force ces Saxons, et bien, il sera repris par un certain nombre d'évêques et de penseurs chrétiens qui vont très clairement lui rappeler que la conversion ne peut pas être imposée par la violence dans le christianisme. Cela a été formulé dès le VIe siècle par le concile de Tolède, en Espagne. La conversion ne peut pas être le fruit d'une contrainte extérieure, autrement dit d'une violence, puisque la foi est une grâce, et donc on ne peut pas imposer la foi à quelqu'un. Puisque la foi est une grâce et donc un don de Dieu. Et cela nécessite une libre adhésion. Oui. Le quatrième concile de Tolède, au VIe siècle de mémoire, va clairement écrire dans ses canons, alors j'ai plus le numéro du canon, mais va très clairement affirmer dans ses canons que on ne peut pas contraindre par la force, on ne peut pas exercer une conversion forcée. Voilà. Alors, il y a quelques exemples, qui ne sont pas très nombreux, mais de conversion forcée, par exemple, notamment au moment de la Reconquista en Espagne. Mais ces conversions forcées, encore une fois, sont extrêmement minoritaires et s'inscrivent dans un contexte politique extrêmement particulier, tel que celui que j'ai cité à l'instant, celui de la Reconquista en Espagne. Alors, attention, il ne s'agit pas de dire ici que les chrétiens n'ont jamais été violents au cours de l'histoire. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, hommes et femmes, conservent leur nature humaine et sont parfaitement faillibles. Et ce n'est pas parce que les textes et les enseignements et les autorités de l'Église rejettent la violence que la violence n'a pas existé. Prenons un exemple qui n'est pas celui de la croisade. Vous savez tous que les Européens ont participé à la traite négrière entre le XVIe et le XIXe siècle, c'est-à-dire les Européens chrétiens ont participé à l'esclavage avec le commerce triangulaire. Les Européens n'ont pas inventé l'esclavage, puisqu'il existait depuis toujours, ils y ont participé, mais les Européens ont été les premiers à l'abolir. De la même manière qu'au Moyen-Âge, les chrétiens peuvent faire commettre des violences. Hein, je ne vais pas vous faire un cours sur la période de la féodalité et des guerres féodales. Mais les chrétiens et l'Église a été la première à vouloir réduire et limiter cette violence. Et je pense en particulier à l'exemple de ce qu'on a appelé la trêve de Dieu et la paix de Dieu en Occident dans le cadre de la réforme grégorienne. Trêve de Dieu, paix de Dieu, ça vous dit quelque chose ? À qui est-ce que ça ne dit rien ? Ce qu'on appelle la trêve de Dieu et la paix de Dieu, ce sont des mouvements larges qui traversent la société féodale. Donc, vous savez qu'à partir du Xe siècle, les structures politiques en Occident éclatent, il n'y a plus de grands rois, il n'y a plus de grands empereurs, et le pouvoir s'émiette en une multitude de petites structures qu'on appelle des structures féodales, c'est-à-dire, en gros, un seigneur qui est sur son château fort en haut d'une colline et qui exerce son pouvoir sur un territoire plus ou moins vaste. Cette période féodale se caractérise par de nombreuses violences, de nombreux affrontements entre seigneurs qui se font la guéguerre pour agrandir leur domaine, et l'Église, ne pouvant complètement supprimer cette violence, cherche à la canaliser et à la diminuer en instaurant ce qu'on a appelé la trêve de Dieu et la paix de Dieu. Alors, quelle est la différence ? La trêve de Dieu, c'est la suspension des guerres et des combats pendant des périodes limitées. Par exemple, interdit de faire la guerre le dimanche, interdit de se battre pendant la semaine sainte, pendant le carême, ou pendant certaines fêtes religieuses. On ne supprime pas complètement la violence, mais on la limite, on la réduit. La paix de Dieu, elle, est un mouvement concomitant à la trêve de Dieu, elle porte plus sur l'inviolabilité de certaines personnes. Par exemple, inviolabilité des clercs, inviolabilité des pauvres, des marchands, des pèlerins. Ce qu'on appelle un pauvre au Moyen-Âge, c'est pas forcément un pauvre comme nous on se l'imaginerait aujourd'hui. Le pauvre au Moyen-Âge, c'est celui qui ne peut pas assurer sa propre défense. Donc, par exemple, un paysan, au Moyen-Âge, c'est un pauvre, parce qu'il ne peut pas se défendre, par opposition à la caste des nobles, des seigneurs, qui manient les armes. Inviolabilité aussi des églises en tant que bâtiment, c'est-à-dire que l'église devient un lieu de refuge, elle devient un sanctuaire. Donc, on le voit bien, pour ceux qui vous parleront de la croisade, eh bien, vous pourrez leur rétorquer comme argument que l'église, dans une société marquée par la violence, telle que la société du Moyen-Âge, a été la première et a très tôt commencé à vouloir réduire et limiter cette violence. Maintenant, petit b, la place de la violence et de la guerre dans l'islam. Alors, contrairement au christianisme, La guerre sainte ou djihad est consubstantielle à l'islam. On pourrait pratiquement même affirmer que la guerre sainte est le sixième pilier de l'islam. Vous en connaissez cinq. Eh bien, s'il y en avait un sixième, ce serait la guerre sainte. En effet, le fondateur de l'islam, Mahomet, Mohamed en arabe, est à la fois un marchand, un poète, mais aussi un homme de guerre. Il faut savoir que c'est par la force, par la guerre, que Mahomet va s'imposer à Médine en 622, puis à la Mecque en 630. Et enfin dans l'Arabie tout entière, peu avant sa mort, en 632. Donc Mahomet va justifier la violence et la conquête par la force, à l'opposé du message de Jésus. Mahomet, qui est la source d'imitation suprême pour tous les musulmans, ne se montre pas particulièrement tendre ou miséricordieux au cours de sa vie. Il va ordonner à plusieurs reprises le massacre d'adversaires, y compris de prisonniers, et dont des membres de tribus arabes, judaïsés ou de musulmans nouvellement convertis mais jugés douteux. Les successeurs de Mahomet, qu'on appelle les califes, hein, les premiers califes, vont reproduire et rester fidèles à cette attitude de Mahomet, en particulier le calife Abou Bakr II, qui va massacrer allègrement en Irak et en Syrie eh bien, des chrétiens, des juifs ou des yézidis, ce qu'on appelle... Alors les yézidis, c'est une communauté considérée comme hérétique par les musulmans et qui sont encore, même aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, victimes de persécutions. Donc, pour les musulmans, le djihad s'inscrit dans la perspective de l'acquisition des biens du monde futur. Le paradis musulman, vous le savez peut-être, est réservé aux hommes valeureux qui vont, entre autres, mourir au combat pour l'islam et ils y obtiendront un certain nombre de satisfactions et dont 72 vierges, et ce pour l'éternité. Quant aux femmes, bonnes musulmanes, parfois aussi mobilisées pour des attentats suicides dans certaines régions du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est une invention récente, les attentats suicides par les femmes, eh bien, elles recevront dans l'autre monde des satisfactions purement spirituelles, donc elles sont moins favorisées que les hommes, c'est dommage, tant pis pour elles. Bref, l'islam, pour résumer mon propos, est consubstantiel à l'islam, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme, vous l'aurez compris. Donc pour résumer cette première partie, dans le christianisme, la justification de la guerre, et donc de la violence, est tardive. Pas avant le IVe siècle et la christianisation de l'Empire romain. Et cette justification de la guerre s'inscrit dans un cadre précis qui est le cadre de la guerre juste. Je vous ai donné l'exemple de Charlemagne et des conversions forcées qui ont été condamnées sans équivoque de la part des autorités religieuses. Dans l'islam, en revanche, la guerre est naturelle et consubstantielle dès l'origine à l'islamisme. Chez les musulmans, le prophète est à la fois chef d'État et chef de guerre. Autre comparaison, autre distinction, le djihad a pour but de dilater les territoires musulmans à partir des territoires d'origine. Donc la guerre pour les musulmans se comprend essentiellement comme une guerre de conquête. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie, qui est le cas particulier de la croisade. Puisque la croisade, elle, va commencer au début du XIe siècle, et la croisade ne se veut pas comme une guerre de conquête. A contrario, la croisade se veut comme une guerre de reconquête, c'est-à-dire de reprise de territoires qui étaient chrétiens et ont été conquis par l'islam. Donc, la croisade, on peut davantage la comprendre comme une guerre de défense où on cherche à reprendre un bien. Enfin, ce n'est pas la même chose de conquérir un bien qui ne vous appartient pas et de vouloir reprendre un bien qui vous appartenait. Et ce, depuis plusieurs siècles, puisque je vous rappelle que le christianisme est né au Moyen-Orient. Jésus n'est pas né en Provence. C'est dommage, mais c'est comme ça. Les territoires du Moyen-Orient, les lieux saints, le lieu saint en particulier de Jérusalem, est le berceau du christianisme. Et à cette époque, il est aux mains des musulmans. Alors, il reste combien de temps là? Ah, il ne reste pas beaucoup. Alors, quelques rappels historiques. La croisade. La première croisade, elle est prêchée par le pape Urbain II en 1095. Donc, on est au tout début du XIe siècle. Et première chose à savoir, le mot croisade va être forgé après coup. Autrement dit, pour les chrétiens qui vivaient au XIe siècle, le mot croisade n'était pas employé. C'est une construction a posteriori. Les mots employés par Urbain II, alors on n'a pas de source directe de son appel à la croisade, on n'a que des transcriptions faites a posteriori. Le mot qui est employé par tous les chroniqueurs, c'est prendre la croix. Et c'est ça qui a donné le mot croisade. Mais le mot croisade n'a jamais été employé, n'a jamais été prononcé par le pape Urbain II, ni par les chevaliers et les pèlerins qui ont participé à la croisade. Alors, quels étaient les motifs cités par le pape pour justifier cet appel à prendre la croix? Eh bien, tout d'abord, venir en aide à l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'ancien Empire romain d'Orient, menacé d'invasion. Pourquoi le XIe siècle? Eh bien, parce qu'au XIe siècle, vous avez un bouleversement très important dans le monde arabo-musulman. Vous avez l'arrivée d'un nouveau peuple qui vient des steppes d'Asie centrale. C'est un peuple qui n'est pas arabe, ce sont les Turcs. Les Turcs seljoukides, qui sont des peuples nomades, avec une organisation militaire assez efficace. Ces Turcs seljoukides vont balayer les armées arabes et très vite, les Turcs vont prendre la tête du monde arabo-musulman. Donc les Turcs se convertissent à l'islam, mais à partir du XIe siècle, le monde arabo-musulman est en partie dominé par des tribus d'origine turque. Ce ne sont plus des tribus arabes, ce sont des tribus d'origine turque. Alors pour nous occidentaux, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que les Turcs vont mener une politique beaucoup plus rigide et beaucoup plus dure que ce qui était mené par les califes arabes, car il faut savoir que dans le monde musulman, eh bien, les chrétiens étaient tolérés. Alors, attention au mot « toléré », parce que c'est un mot dangereux. Aujourd'hui, le mot « toléré » a une connotation positive, alors qu'en réalité, c'est un gros mot. J'interdis à mes enfants d'employer le mot « toléré », c'est vraiment un gros mot. Les chrétiens avaient un statut d'infériorité qui était celui du statut des dhimmis, dont vous avez peut-être entendu parler dans vos études, c'est-à-dire un statut d'infériorité qui fait qu'en gros, on les autorisait à rester sur place à partir du moment où ils payaient l'impôt et où ils acceptaient un certain nombre d'humiliations par rapport à l'islam. Donc, jusqu'au XIe siècle, les chrétiens sont nombreux à vivre en terre d'islam. Ils ont un statut d'infériorité, mais à partir du moment où ils paient l'impôt, à partir du moment où ils ne font pas de prosélytisme, à partir du moment où ils ne construisent pas de nouvelles églises, à partir du moment où ils paient une taxe qui est la capitation, à partir du moment où ils ne prennent pas les armes, eh bien, en gros, on les laisse tranquilles. Donc ne vous imaginez pas la vie dans le monde musulman comme on la verrait aujourd'hui sous le prisme de l'islam politique, Daesh, etc., où en gros on exécute et où on assassine tous les gens qui ne sont pas musulmans. Les chrétiens étaient nombreux. Par exemple, en Égypte, à l'époque de l'islam, les Coptes étaient majoritaires sur le plan numérique. Ils étaient minoritaires sur le plan politique, le pouvoir appartenait aux musulmans, mais sur le plan numérique, les Coptes étaient majoritaires. Donc, qu'est-ce qui change avec les Turcs ? Je vous ai vu. Qu'est-ce qui change avec les Turcs ? C'est que les Turcs vont renforcer la pression sur les minorités. Et c'est ça qui va justifier, eh bien, pour le pape, l'appel à aller secourir les chrétiens d'Orient et à délivrer les lieux saints de Palestine. La notion de croisade va ensuite être étendue à d'autres épisodes guerriers, notamment contre les musulmans en Espagne avec la Reconquista, puis contre les païens dans les pays baltes. Au XIIIe siècle, en Europe, on parlera aussi de croisade contre les cathares, hein, au moment où l'Inquisition renforce son travail pour lutter contre les hérésies. Donc il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, ils sont où les chefs, là ? Les chefs du chapitre. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez quoi de prévu à 15h30 ?
Après, c'est temps libre pour la préparation.
C'est temps libre. Oui, donc je vais vite terminer mon propos et après répondre aux questions. Ça vous va ? Donc, comme je vous l'ai expliqué, la notion de croisade, elle apparaît au XIe siècle, après l'appel du pape Urbain II pour aller libérer les lieux saints. Et à ce moment-là, elle correspond parfaitement au canon de la notion de guerre juste, définie plus tôt par saint Augustin, par exemple. Ce n'est pas une guerre de conquête, c'est une guerre menée pour libérer des chrétiens qui sont eux-mêmes persécutés par le pouvoir musulman. Les croisades, avec le temps, et puisque vous savez que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, eh bien, avec le temps, les croisades vont se transformer en guerre de conquête, puisque les Occidentaux vont créer de nouveaux États, les États latins d'Orient, qui finiront par disparaître quelques siècles plus tard. L'idéal de la croisade va survivre jusqu'au XVIe siècle, en Europe de l'Est et dans la Méditerranée, et va ensuite pratiquement disparaître. Aujourd'hui, la notion de croisade est tombée en désuétude. Il n'en est rien pour la notion de djihad. La notion de djihad se manifeste aujourd'hui encore pleinement dans le monde musulman. Et ça vient contredire la vision qu'avait Auguste Comte avec les âges de l'humanité. La notion de djihad, elle existe encore au XIXe siècle, au Soudan. En 1914, lorsque l'Empire ottoman, donc Empire musulman, entre en guerre aux côtés de l'Allemagne, eh bien, le sultan ottoman appelle à la croisade contre les Anglais et les Français. Donc la notion de djihad n'a pas disparu au cours de l'histoire, alors que la notion de croisade, elle, a disparu. Et aujourd'hui, je vous renvoie pas à l'actualité, notamment l'actualité de l'État islamique et d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient. La croisade a été appelée, le djihad a été mobilisé lors de la guerre d'Algérie. Le djihad a été mobilisé en Irak dans les années 90, en Égypte, et encore aujourd'hui dans de nombreux pays comme en Syrie. Donc dans le monde musulman, et je vais terminer là-dessus, les croisades ont été dénoncées comme des agressions chrétiennes contre le Dar al-Islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam. Aujourd'hui encore, les djihadistes dans le monde musulman utilisent le terme de croisés pour désigner, par exemple, les soldats américains en Afghanistan ou les soldats français au Mali. Donc, de leur point de vue, ce sont les chrétiens qui agressent le monde musulman, et pour eux, le djihad est considéré comme légitime. En face, eh bien, le christianisme donne plutôt l'impression d'un désarmement, voire même d'une franche capitulation devant les exigences musulmanes, qui réclament par exemple une repentance pour les croisades, oubliant ainsi que les croisades ne sont pas une guerre de conquête, mais une guerre de reconquête, c'est-à-dire de défense de populations chrétiennes soumises et dominées par des musulmans. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si un chrétien ne peut plus parler comme c'était le cas au XIe siècle, il devrait tout de même réfléchir à davantage de fermeté et en particulier, de solidarité active envers les chrétiens d'Orient qui subissent toujours aujourd'hui cette domination de l'islam, au lieu de s'abandonner, et là je ne vise personne, enfin si, mais vous aurez deviné, au lieu de s'abandonner à des dialogues à sens unique et à une cécité volontaire devant l'islam. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors il y a quelques questions, j'ai un peu dépassé mon père, mais c'est votre faute. Au début vous avez parlé. J'exagère. En fait, l'empire arabo-musulman va connaître plusieurs dynasties au cours de son histoire. Les Fatimides, enfin, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les dynasties arabo-musulmanes. Mais à partir du Xe siècle, les Turcs, qui sont des nomades, des guerriers, vont vaincre militairement les Arabes. Et donc, ils vont prendre le contrôle politique du monde arabo-musulman. C'est-à-dire que les sultans... les califes ne seront pas turcs, parce que pour être calife, il faut être successeur de Mahomet, donc il faut être issu de la tribu de Mahomet, donc être arabe. Mais les Turcs vont prendre le contrôle politique des armées arabo-musulmanes et, en gros, être les premiers ministres des califes. Donc les vrais patrons en ce moment-là, ce sont les Turcs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il y avait une autre question ?
À un moment, vous dites, par rapport au fait que les chrétiens ils ont été violents parce qu'ils sont faillibles, mais ce sont été promis parce qu'ils ont été libres, ils ont été libres et tout. Et moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé pendant longtemps, c'était le fait que la controverse de Valladolid n'a reconnu que les Indiens étaient des hommes, et que du coup, en gros, on a profité en disant, et je veux savoir si la phrase... Enfin, on m'a dit, le père avait dit, donc on peut prendre les noirs parce qu'ils portent sur la croix du péché. Est-ce que c'est pas vrai ou pas ?
Joker.
Parce que du coup, j'étais un peu.
Je suis pas expert. Je saurais pas vous dire. Après.
Vous avez mentionné que Louis XIV avait promis à le Code noir à réguler l'esclavage pour le régime identifié quand même, et que l'esclavage des Européens est. Deux fois inférieur à celui des musulmans, donc au cours de l'histoire.
Oui, en termes de volume. Oui, c'est vrai.
Mais en termes d'exaction, j'ai envie de dire aussi.
En termes de ?
D'exaction aussi. Il y a une énorme description de viol, de meurtre. Je crois qu'on les émet, je ne vais pas faire des détails, pardon, mais. Bah, c'est 80% des hommes qui mouraient parce qu'on les. Voilà, donc. Pour avoir problème dans les rêves, donc.
Par rapport à l'historicité de cette phrase, Joker, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, donc je préfère rien dire. C'est, ça, il faut souvent le faire dans la vie. Quand on ne sait pas trop, vaut mieux se taire que dire une bêtise. Il n'y avait pas une question par ici, oui ? En fait, c'est une... Quand Urbain II appelle à faire la croisade, son souci, c'est d'aider les chrétiens d'Orient qui ont appelé à l'aide et d'aider aussi l'Empire byzantin qui appelle à l'aide contre les Turcs. Donc le but, en gros, c'est aller à Jérusalem, libérer Jérusalem et après repartir, faire le job et repartir. Avec le temps, et d'ailleurs les premières personnes qui suivent le pape, ce ne sont pas les rois, C'est pas le roi de France, c'est pas le roi d'Angleterre, c'est pas l'empereur romain germanique. Ce sont des seigneurs et le peuple. C'est-à-dire des gens qui partent en payant en gros eux-mêmes leur voyage, donc il n'y a pas d'enrichissement personnel. Hein, les frais du voyage, enfin, ils vont mettre de côté toute leur fortune pour pouvoir faire le voyage jusqu'à Jérusalem. Et l'optique, c'était d'aller jusqu'à Jérusalem et rentrer à la maison. Certains seigneurs vont choisir de rester et de créer des États sur le modèle des États féodaux occidentaux qu'on trouve en Europe à la même époque. Donc on n'est plus tout à fait déjà dans la même optique. D'accord ? Et sur ce fait-là vont se greffer des enjeux de pouvoir, de puissance, etc. C'est pour ça que la notion de croisade, elle a été un peu pervertie. Et d'ailleurs, Jérusalem, qui au départ était la ville la plus importante pour les chrétiens, alors que Jérusalem avait peu de valeur pour les musulmans, puisque on dit souvent que Jérusalem, c'est la ville sainte des trois religions. Non, ça, c'est un mythe. La ville sainte des musulmans, c'est la Mecque. Et la seconde, c'est Médine. C'est pas Jérusalem. Jérusalem n'arrive que dans la troisième position pour les musulmans. Donc, au début des croisades, quand les musulmans voient arriver les chevaliers français, européens, ils pensent qu'ils sont encore dans la même logique des affrontements traditionnels qu'il y avait entre byzantins et musulmans. Alors que là, on est dans une autre forme de combat. Pour les occidentaux, une fois que Jérusalem est prise, l'importance liée à la ville diminue et la conservation des autres territoires va être de plus en plus importante. Donc on est plus dans une optique de guerre de conquête. Bon, après, je ne vous fais pas un topo sur la croisade au sens propre, parce qu'on n'aura pas le temps, de toute façon, on a terminé. D'autres questions ?
Pourquoi la notion de croisade est disparue, alors que les persécutions contre les chrétiens ont continué ?
Parce que les persécutions contre les chrétiens... excusez-moi. Là, il faut couper. Les persécutions contre les chrétiens, elles sont le fait de l'islam. Donc, elles ne sont pas liées directement à la notion de croisade. Les croisades ont disparu parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le lien entre État et religion qu'il y avait autrefois. C'est-à-dire que dans des États sécularisés, la notion de défendre une religion particulière ne fait pas partie du logiciel des États sécularisés.